À peu près à mi-chemin entre le ranch et des barrières, je repérai une cabane de berger abandonnée et suggérai que nous nous y abritions quelque temps pour manger un morceau. Bill Streeter accepta sans rechigner. Il venait certes de perdre son pas et tous ses proches, mais c'était un enfant en pleine croissance et il n'avait rien avalé depuis la veille au soir. Nous avons attaché nos montures à l'abri du vent et nous sommes assis dans la cabane, adossés à l'un de ses murs. J'avais dans mes sacoches des tranches de bœuf séché. La viande était salée, mais ma gourde était pleine. Le garçonnet a dévoré une demi-douzaine de tranches à belles dents, accompagnant chaque bouchée d'une gorgée d'eau. Une vive bourrasque secoua notre refuge. Millie se mit à braire, puis se tut aussitôt.
« Le simoun soufflera avant la nuit, » dit le jeune Bill. « Vous allez voir ce que vous allez voir. »
J'aime le bruit du vent. Cela me rappelle une histoire que me lisait ma mère quand j'étais tout petit. La clé des vents, ça s'appelait. Tu la connais ? Le jeune Bill fit non de la tête.
« Vous êtes vraiment un pistolero, monsieur ? Vous dites vrai ? » ?»«
Oui. »«
Je peux tenir un de vos revolvers une minute ?»«
Jamais de la vie, mais tu peux regarder ceci si tu le veux. » Je pris une balle dans ma cartouchière et je la lui tendis. Il l'examina attentivement, de la pointe à la base.
« Par les dieux, mais c'est lourd et c'est long. Je parie que quand vous tirez sur quelqu'un avec ça, il se relève pas. »
« En effet, une cartouche, c'est dangereux, mais c'est aussi plutôt joli. Tu veux que je te fasse un tour avec celle-ci ? » ?»«
Ouais. »
Je repris la balle et la fis passer d'une phalange à l'autre, tandis que mes doigts ondulaient comme des vagues. Le jeune Bill écarquilla les yeux.
« Comment vous arrivez à faire ça ?»«
Comme tout le reste, avec de l'entraînement. »«
Vous voulez me montrer comment on s'y prend ?»«
Regarde attentivement et tu comprendras tout seul. » Elle est là et elle n'y est plus. Je fis disparaître la cartouche et pensai à Suzanne Delgado, comme toujours lorsque j'exécutais ce tour, je suppose. Et la voilà. La balle dansait, vite, puis lentement, puis à nouveau vite. Suis-la des yeux, Bill, et tâche de voir comment je l'escamote. Ne la quitte pas des yeux. Ma voix se fit murmure sourd. « Regarde, regarde, regarde. Tu ne t'endors pas ?»«
Si, un peu. »
Ses paupières tombèrent lentement, puis se relevèrent.
« Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. »«
Ah bon ? Regarde-la. Regarde-la bien. » Vois comme elle disparaît et la revoilà soudain. La balle allait et venait. Le vent soufflait, aussi lénifiant pour moi que ma voix l'était pour lui. Dors si tu en as envie, Bill. Écoute le vent et dors. Mais écoute quand même ma voix.
Je vous entends, pistolero.
Ses yeux se fermèrent à nouveau, mais ne se rouvrirent pas. Ses mains reposaient, molles, sur ses cuisses.
« Je vous entends très bien. »
« Tu vois toujours la balle, n'est-ce pas ? Même les yeux clos ?»«
Oui, mais elle est plus grosse. Elle brille comme l'or. »«
Tu dis vrai ? » ?»«
Oui. » »«
Descends plus profond, Bill. » Mais entends ma voix.
J'entends.
Je veux que tu reviennes à la nuit dernière, avec ton esprit, tes yeux et tes oreilles. Tu veux bien ? Un pli barra son front.
Non, je veux pas.
Tu n'as rien à craindre. Ce qui est arrivé n'arrivera plus. Et puis, je suis près de toi.
Vous êtes près de moi. Et vous êtes armé.
Oui. Il ne t'arrivera rien tant que tu entendras ma voix, car nous sommes ensemble. Je te protégerai. Tu as compris cela ?
Oui.
Ton pas t'a dit d'aller dormir à la belle étoile, pas vrai ?
Oui, la nuit s'annonçait chaude.
Mais ce n'était pas vraiment pour cela, hein ?
Non, c'était à cause d'Elrod. Une fois, il a attrapé le chat par la queue, il l'a fait tourner et il l'a jeté dehors. Et le chat n'est jamais revenu. Parfois, c'est moi qui l'attrape par les bottes et il chante « Le garçon qui aimait Jenny ». Mon pas ne peut pas l'en empêcher parce que Elrod est plus costaud que lui et il a un couteau planqué dans sa botte. Il n'hésite pas à le sortir. Mais il n'a pas pu poignarder le monstre, hein ?
Ses mains jointes tressaillirent.
Elrod est mort et je suis content. Je suis triste pour tous les autres. Et pour mon pas, je sais pas ce que je vais faire sans mon pas, mais je suis content pour Elrod. Il me taquinera plus jamais, il me fera jamais plus peur. Oui, je l'ai vu.
Ainsi, il en savait bien plus que ce qu'il se rappelait en état d'éveil. Te voilà dans la pâture maintenant.
Dans la pâture.
Enveloppé dans ta couverture, sous ton ombrelle.
Mon ombrette.
Sous ton ombrette. Tu es encore éveillé. Tu contemples les étoiles, le vieil astre et la vieille mer.
Non, je dors, mais les cris me réveillent. Les cris venant du dortoir, et les bruits de lutte, de fracas, et quelque chose qui rugit.
Que fais-tu, Bill ?
Je redescends. J'ai peur, mais mon pas est là-bas. Je regarde par la fenêtre du fond. C'est du papier paraffiné, mais j'arrive à voir au travers. Et j'aurais pas dû. Parce que ce que je vois, c'est... Je peux me réveiller, monsieur ?
Pas encore. Je suis avec toi, rappelle-toi.
Vous avez dégainé vos revolvers, monsieur ?
Demanda-t-il en frissonnant. Je le dois, pour te protéger. Que vois-tu ?
Du sang et une bête.
Quel genre de bête ? Tu peux me le dire ?
Un ours. Il est si grand que sa tête cogne le plafond. Il s'avance au milieu du dortoir, entre les couchettes. Il marche sur ses pattes de derrière et il attrape les hommes. Il attrape les hommes et il les déchire en mille morceaux avec ses longues griffes.
Des larmes coulèrent de ses yeux clos pour rouler sur ses joues.
Le dernier qu'il a tué, c'est Elrod. Il a couru vers la porte du fond, celle qui donne sur la réserve à bois. Et quand il a compris que la bête l'aurait rejoint avant qu'il ait le temps de sortir, il s'est retourné pour l'affronter. Il avait sorti son couteau, il a voulu la frapper.
Lentement, comme s'il était sous l'eau, le petit garçon leva sa main droite. Puis il serra le poing et l'abattit.
L'ours lui a saisi le bras pour le lui arracher. Elrod a hurlé. Ça m'a rappelé un cheval que j'ai vu un jour quand il a marché dans une taupinière et s'est cassé la patte. La chose, elle a frappé Elrod avec son propre bras. Le sang jaillissait de partout. Il y avait des lambeaux de peau qui fouettaient l'air. Elrod a heurté la porte et glissé contre le battant, mais l'ours l'a attrapé pour le mordre à la gorge et j'ai entendu un bruit. Il lui a arraché la tête d'un coup de dent. Je veux me réveiller maintenant, s'il vous plaît.
Bientôt. Qu'as-tu fait ensuite ?
Je suis parti en courant. Je voulais me réfugier dans la grande maison, mais Cy Jefferson, il...
Qu'a-t-il fait ?
Il m'a tiré dessus. Mais je crois qu'il l'a pas fait exprès. Il m'a aperçu du coin de l'œil et j'ai senti la balle passer en sifflant. Wish ! Elle a failli me descendre. Alors je me suis enfui vers le corral, je suis passé entre les poteaux, et c'est alors que j'ai entendu deux coups de feu. Puis encore des hurlements. Je me suis pas retourné, mais je savais que c'était Cy Jefferson qui hurlait.
Cela, nous l'avions déduit des traces laissées sur le terrain. La chose était sortie du dortoir à toute allure. Elle s'était emparée du pistolet et en avait tordu les canons. Puis elle avait étripé le rancher et l'avait jeté dans le dortoir, où il avait rejoint ses prodiges. Sa première balle avait sauvé la vie du jeune Bill. Si le rancher n'avait pas tiré, le gamin se serait réfugié dans la maison où il aurait été massacré avec le reste de la famille Jefferson. Ensuite, tu vas dans la vieille sellerie, là où nous t'avons retrouvé.
Si fait, je vais me cacher sous les pièces de harnais, mais je l'entends, il arrive.
Il était repassé au présent, et sa voix se faisait traînante. Son discours s'entrecoupait de sanglots. Je savais que je le faisais souffrir, car il est toujours pénible d'évoquer d'horribles souvenirs. Mais j'ai quand même insisté. Je le devais, car ce qui s'était passé dans cette sellerie désaffectée était d'une importance capitale, et le jeune Bill en avait été le seul témoin. Par deux fois, il tenta de raconter son histoire au passé. Cela signifiait qu'il cherchait à sortir de sa transe. Aussi l'entraînais-je plus profond. Et il finit par tout me dire. La terreur qu'il éprouvait lorsqu'approcha la chose grondante et pantelante. La façon dont ses bruits virèrent au feulement rauque. Quand elle poussa un nouveau rugissement, avoua le jeune Bill. Il mouilla sa culotte. Impossible de se retenir. Il attendit que le félin entre dans la sellerie, sachant qu'il reniflerait aussitôt sa présence, sauf que ce n'est pas ce qui se produisit. Il y eut un silence, un long silence, puis de nouveaux cris.
D'abord, c'est le félin qui crie, puis c'est un être humain. On dirait une femme, tellement sa voix est haut perché, puis ça devient peu à peu une voix d'homme. Il n'arrête pas de crier, encore et encore. Ça me donne envie de crier, moi aussi. J'ai bien cru.
Je crois bien. N'oublie pas, Bill, que ça se passe en ce moment même. Sauf que je suis là pour te protéger. J'ai dégainé mes armes.
Je crois bien que ma tête va éclater. Puis ça cesse, et la bête entre.
Elle marche vers l'autre porte, n'est-ce pas? Il secoua la tête.
Elle ne marche pas. Elle se traîne. Elle titube, comme si elle était blessée. Elle passe tout près de moi. Il passe tout près de moi. C'est un homme, maintenant. Il manque tomber, mais se rattrape à la porte d'un box et se redresse. Puis il continue. On dirait que ça va un peu mieux.
Il a repris des forces?
Oui.
Tu vois son visage? Je connaissais déjà la réponse à cette question.
Non, seulement ses pieds. La lune s'est levée et je les vois comme en plein jour.
Certes, mais on ne pourrait sûrement pas identifier le garou grâce à ses pieds. Je me préparais à faire sortir le garçon de sa transe lorsqu'il reprit.
Il a un anneau autour de la cheville.
Je me penchai vers lui, comme s'il pouvait me voir, et s'il était suffisamment plongé dans sa transe, peut-être y arriverait-il, même les yeux clos. Quel genre d'anneau? Un anneau métallique, comme des fers?
Je sais pas ce que c'est.
C'est un mort de bride, par exemple?
Non. Non, Elrod a le même sur le bras, sauf que c'est une femme nue et qu'on la voit à peine.
Un tatouage, tu veux dire? Le petit garçon sourit.
Oui, c'est ça. Mais celui-ci, c'est pas une image, rien qu'un anneau bleu autour de sa cheville, un anneau bleu dans sa peau.
Nous te tenons, pensais-je. Tu ne le sais pas encore, ça, Garou. Mais nous te tenons.
Je peux me réveiller maintenant, monsieur. Je veux me réveiller.
Il y a autre chose ?
La tache blanche ?
Sembla-t-il s'interroger. Quelle tache blanche ? Il secoua lentement la tête et je décidai de ne pas insister. Il en avait assez fait. Laisse-toi guider par le son de ma voix. En venant vers moi, défais-toi de tout ce qui s'est passé cette nuit, parce que c'est fini, et bien fini. Viens, Bill, viens ici.
Je viens.
Ses yeux roulèrent derrière ses paupières. Tu es en sécurité. Tout ce qui est arrivé au ranch, c'est du passé. Pas vrai ?
Oui.
Où sommes-nous ?
Sur la route de Debaria, nous allons en ville. Je n'y étais allé qu'une fois. Mon père m'avait acheté des bonbons.
Je t'en achèterai, moi aussi, car tu t'es bien conduit, jeune Bill du Jefferson. À présent, ouvre les yeux. Il s'exécuta, mais resta un instant sans me voir. Puis son regard s'éclaircit et il m'adressa un sourire hésitant.
Je me suis endormi.
En effet, et je crois qu'on devrait reprendre la route avant que le vent ne devienne trop fort. Tu y arriveras, Bill ?
Si fait,
dit-il, et il ajouta en se levant.
J'ai rêvé de bonbons.
Les deux adjoints minables se trouvaient au bureau du shérif lors de notre arrivée. Et l'un d'eux, un gros type coiffé d'un grand chapeau noir avec un ridicule ruban en peau de serpent, prenait ses aises sur le fauteuil de Peavy. En voyant mes revolvers, il se leva en hâte.
« C'est vous le pistolero, hein ? »
lança-t-il.
« Heureuse rencontre, on vous le dit tous les deux. Où est votre équipier ?»
J'escortai le jeune Bill vers les cellules sans prendre la peine de répondre. Le garçon observa ce qui l'entourait avec un intérêt dénué de toute crainte. Sam le salé, l'ivrogne, avait vidé les lieux, mais son fumet était resté.
« Qu'est-ce que vous faites, jeune Sai ? »
demanda le second adjoint derrière moi. « Mon travail, » répondis-je. « Retournez au bureau et rapportez-moi le trousseau de clés, et plus vite que ça, s'il vous plaît. » Comme les petites cellules étaient dépourvues de matelas, je conduisis le jeune Bill dans la cellule de dégrisement où Jamie et moi avions passé la nuit précédente. Tandis que je mettais les deux paillasses l'une sur l'autre pour lui aménager une couche confortable, vu ce qu'il avait enduré, il avait droit à certains égards, estimai-je. Il examina la carte dessinée à la craie sur le mur.
« Qu'est-ce que c'est, Sai ? » ?»«
Ne t'occupe pas de cela. » « Maintenant, écoute-moi. Je vais t'enfermer ici, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur, car tu n'as rien fait de mal. C'est pour assurer ta sécurité. J'ai une course à faire et, quand j'en aurai fini, je reviendrai auprès de toi. »«
Pour nous enfermer tous les deux ? Il faut nous enfermer tous les deux, au cas où il reviendrait. »«
Tu t'en souviens maintenant ?»«
Un peu, »
dit-il en baissant les yeux.
C'était pas un homme, puis c'est devenu un homme. Il a tué mon pas.
Il se plaqua les poings sur les yeux.
Mon pauvre pas.
L'adjoint au chapeau noir revint avec les clés demandées. L'autre le suivait de près. Tous deux fixaient le garçon bouche bée comme si c'était une chèvre à deux têtes dans un cirque. Je pris le trousseau. Bien. Maintenant, retournez au bureau.
« Il me semble que vous poussez un peu, jeune homme, »
dit Chapeau Noir, et son acolyte, un avorton au menton fuyant, opina du chef. « Allez-vous-en, ce garçon a besoin de repos. » Ils me fixèrent quelques instants, puis s'enfuirent. C'était la bonne chose à faire, la seule chose même. Je n'étais pas d'humeur aimable. Le garçon darda les poings sur les yeux jusqu'à ce qu'on cesse d'entendre claquer leurs bottes, puis il les baissa.
« Vous allez l'attraper, Sai ? » ?»«
Oui. »«
Et vous allez le tuer ? » ?»«
Est-ce que tu veux que je le tue ? » ?»« Il réfléchit d'un air grave, puis acquiesça.
« Si fait, pour ce qu'il a fait à mon pas, et à Cy Jefferson, et à tous les autres, même Elrod. »
Je refermai la porte, trouvai la bonne clé et la fis tourner dans la serrure. Puis je passai le trousseau à mon poignet, car il ne rentrait pas dans ma poche. « Je vais te faire une promesse, jeune Bill, sur le nom de mon père. Je ne l'abattrai pas, mais tu le verras pendre, et je te donnerai moi-même le quignon de pain que tu répandras sous ses pieds inertes. » En me voyant revenir, les deux adjoints me jetèrent un regard méfiant et un rien haineux. Ça ne me fit ni chaud ni froid. J'accrochai le trousseau à côté du Jinjiang et déclarai « Je reviens dans une heure, peut-être un peu moins, en attendant que personne n'entre dans la prison, pas même vous deux. »
« Il le prend de haut pour un blanc-bec, » dit le type au menton fuyant.
« Veillez à ne pas me désobéir, » repris-je. « Ce ne serait pas sage. Compris ?»
Chapeau noir hocha la tête. « Mais le shérif entendra parler de votre attitude.
Débrouillez-vous donc pour avoir une bouche en état de marche quand il reviendra, » lançai-je en sortant. Le vent soufflait de plus en plus fort et projetait entre les bâtiments des nuages de poussière brune et corrosive. J'avais la grand-rue de Débaria pour moi tout seul, exception faite de quelques chevaux qui se tenaient la croupe au vent et la tête basse. Comme je ne tenais pas à abandonner le mien à ce triste sort, pas plus que Milly, la mule du garçon, je l'ai menée à l'écurie située au bout de la rue. Le palefrenier fut ravi de prendre soin d'eux, notamment lorsque je lui tendis une demi-barrette d'or prélevée sur mes réserves. « Non, » dit-il en réponse à ma première question. « Du plus loin qu'il s'en souvienne, il n'y avait jamais eu de bijoutier à Débaria. » Mais il répondit à la seconde par l'affirmative et me désigna la forge de l'autre côté de la rue. Le maréchal Ferrand était planté sur le seuil, son tablier en cuir fourré d'outils claquant au vent. Je me dirigeai vers lui et il porta le poing à son front. « Heil !» Je lui rendis son salut et lui expliquai ce qu'il me fallait. Vanet m'avait dit que ce serait peut-être nécessaire. Il m'écouta attentivement, puis prit la balle que je lui tendais. C'était celle-là même qui m'avait servi à envoûter le jeune Bill. Le maréchal Ferrand la soupesa.
« Combien de grains de poudre contient-elle, vous le savez ?»«
Bien sûr que je le savais. 57. »«
Tant que ça ? Par les dieux, c'est un prodige que le canon de votre revolver n'explose pas quand vous appuyez sur la gâchette. »
Les cartouches de mon père, celles dont j'userai peut-être un jour, contenaient 76 grains, mais je me gardais de le lui dire. Sans doute ne m'aurait-il pas cru. Pouvez-vous faire ce que je vous demande, Sai ?
Je le pense.
Il réfléchit quelques secondes puis ajouta :
Si fait, mais pas aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail et j'aime pas allumer ma forge par grand vent. Une braise qui s'envole et toute la ville risque de prendre feu. La dernière fois qu'on a eu des pompiers ici, mon pas n'était qu'un mioche.
J'attrapai ma bourse et en sortis deux barrettes d'or. Puis, réflexion faite, j'en rajoutai une troisième. Le maréchal Ferrand les contempla avec des yeux émerveillés. Cela représentait ce qu'il gagnait en 2 ans. « Il me les faut aujourd'hui, » dis-je. Il me gratifia d'un large sourire, ce qui me permit d'admirer ses dents blanches nichées dans sa barbe rousse.
« Bienvenue, diable tentateur. Pour un tel trésor, je serai prêt à embraser Gilead elle-même. Vous aurez ça pour le coucher du soleil. »
« Pour 3 heures. »
« Oui. » 3 heures, c'est ce que je voulais dire. 3 heures à la minute près.
Bien. Maintenant, dites-moi, quel est le meilleur restaurant de la ville ?
Il y en a que 2, et ni l'un ni l'autre n'arrivera à vous faire oublier le pâté d'alouette de votre mère. Mais vous risquez pas pour autant de mourir empoisonné. Le café Racé est sans doute le meilleur des 2.
Cela me suffisait. Un garçon en pleine croissance comme Bill Streeter n'allait pas faire le difficile. Je me dirigeais vers le café en question, en marchant à présent contre le vent. « Le simoun soufflera avant la nuit », avait dit le garçon, et je songeais qu'il devait avoir raison. Il avait subi une dure épreuve et devait prendre du repos. À présent que je connaissais l'existence de ce tatouage, peut-être n'avais-je plus besoin de lui. Mais le garou n'en savait rien. Le jeune Bill était en sécurité en prison. Du moins, je l'espérais. Je lui apportai du ragoût, qui semblait assaisonné à l'alcali plutôt qu'au sel, mais il engloutit toute son assiette et termina aussi la mienne lorsque je déclarai forfait. L'un des deux adjoints avait fait du café et nous en avons bu un gobelet. Nous mangions dans la cellule, assis à même le sol. Je tendis l'oreille, mais le jing-jang resta silencieux. Cela ne me surprit guère. Même si Jamie et le shérif en avaient trouvé un là-bas, le vent avait sans doute eu raison des lignes. « Tu sais, c'est tempête que tu appelles, Simoun, » commençai-je.
« Ah oui, » fit le jeune Bill, « on est en pleine saison. Les prodis les détestent et les poquis encore plus, parce qu'ils sont obligés de dormir à la dure s'ils se font surprendre. » Et ils peuvent pas allumer de feu de camp à cause
des braises, dis-je en me rappelant le maréchal Ferrand.
Si fait, mais il y a autre chose.
Je lui tendis un sachet. Il regarda dedans et son visage s'éclaira.
Des bonbons, des rouleaux et des torsades.
Il me rendit le sachet.
Tenez, servez-vous d'abord.
Je pris une petite torsade en chocolat, puis lui repassai le sachet. « Le reste est pour toi, mais ne te rends pas malade. »«
Ah, je ferai attention. »
Et il se servit. Ça me faisait plaisir de le voir aussi content. Après avoir pris un troisième rouleau, il le cala dans sa joue, on aurait dit un écureuil avec sa noisette, et me dit
« Qu'est-ce que je vais devenir, Sai, maintenant que mon pas n'est plus là ?»«
Je ne sais pas, mais il y aura de l'eau. » Si Dieu le veut. Et je croyais savoir d'où elle viendrait, à condition que nous réussissions à éliminer le garou, bien sûr. Alors certaines grandes dames du nom d'Everlyn nous devraient une fière chandelle, et Bill Streeter ne serait pas le premier enfant qu'elle recueillerait. Je revins au Simoun. Il va être très fort, ce vent ?
Cette nuit, il va sacrément souffler. À partir de minuit, normalement, et demain midi, il sera retombé.
Tu sais où vivent les salés ?
Si fait, j'y suis même allé. Une fois avec mon pas, pour assister aux courses qu'ils organisent parfois. Une autre avec des prodiges qui cherchaient des bêtes égarées. Les salés les attrapent et on leur donne des biscuits en échange de celles qui portent la marque du Jefferson.
Mon équipier s'est rendu là-bas en compagnie du shérif Peavy et de deux ou trois hommes. Y a-t-il des chances pour qu'il soit revenu avant le crépuscule ? J'étais sûr qu'il me répondrait non. Aussi fus-je surpris.
Vu que la route est en pente descendante et que le village de Sel est plus près d'ici que Little Debaria, je crois qu'ils y arriveront, à condition de ne pas traîner.
Je me félicitais d'avoir incité le maréchal Ferrand à faire vite. Mais je savais toutefois que je ne devais pas me fier au seul jugement d'un enfant. Écoute-moi, jeune Bill. Quand ils reviendront, ils seront sans doute accompagnés de quelques salés. Une douzaine, une vingtaine tout au plus. Jamie et moi les ferons défiler devant cette cellule pour que tu les vois bien, mais tu n'auras pas à avoir peur, parce que la porte sera fermée et bien fermée. Et tu n'auras pas besoin de parler, seulement d'ouvrir les yeux.
« Si vous croyez que je vais reconnaître celui qui a tué mon pas, c'est pas possible. Je me rappelle même pas si je l'ai vu. »«
Tu n'auras probablement pas besoin de les voir tous. » Je le pensais sincèrement. On les ferait entrer dans le bureau du shérif par groupe de trois et on leur demanderait de mettre pantalon bas. Une fois qu'on aurait repéré l'homme qui avait un anneau bleu tatoué autour de la cheville, on serait fixé. Mais ce n'était plus un homme, plus maintenant, plus vraiment.
« Vous voulez une autre torsade, Sai ? Il en reste trois et j'ai plus faim.
Garde-les pour plus tard, dis-je en me levant. Son visage s'assombrit.
Est-ce que vous reviendrez? Je veux pas rester ici tout seul.
Oui, c'est promis. Je sortis, fermai la porte, puis lui jetai le trousseau de clés à travers les barreaux. Ouvre-moi à mon retour. Le gros adjoint au chapeau noir s'appelait Strotter. Son collègue, au menton fuyant, se nommait Pickens. Il me considérait avec une méfiance teintée de respect, ce qui, venant de gens comme eux, me semblait idéal. Je pouvais m'en accommoder. Si je vous parlais d'un homme portant un anneau bleu tatoué autour de la cheville, qu'est-ce que ça vous évoquerait ? Ils échangèrent un regard et Chapeau Noir, Strotter, répondit
« Le pénitencier !»
« Quel pénitencier ? Voilà qui ne me plaisait guère. »«
Celui de Billy !»
répondit Pickens en me regardant comme si j'étais le dernier des crétins.
« Vous le connaissez pas, vous, un pistolero ?»
« Billy se trouve à l'ouest d'ici, n'est-ce pas ?»«
Se trouver !» corrigea Strotter. C'est une ville fantôme aujourd'hui. Les écumeurs l'ont dévastée il y a 5 ans. Certains accusent les hommes de John Farson, mais j'y crois pas. Jamais de la vie. Ce n'était que de vulgaires hors-la-loi. Dans le temps, il y avait un poste de la milice, quand il y avait encore une milice. Et c'était là qu'ils enfermaient leurs prisonniers. Le juge itinérant y envoyait les voleurs, les assassins et les tricheurs. Et aussi les sorciers et les sorcières. Ajouta Pickens.
À en juger par son expression, il regrettait le bon vieux temps où les trains arrivaient à l'heure et où le jing-jang était plus répandu dans le pays et sonnait plus souvent.
« Les adeptes de la magie noire, » précisa-t-il.
« Un jour, on a enfermé un cannibale, » dit Strotter, « un gars qui avait bouffé sa femme. » Ce souvenir le fit glousser. Mais je n'aurais su dire si c'était à cause de l'alimentation du criminel ou de l'identité de sa victime.
L'a fini pendu, ce type-là, dit Pickens.
Il mordit dans sa chique et la travailla avec ses drôles de mâchoires. Son visage continuait d'évoquer un homme se penchant sur son cher passé.
Il y avait souvent des pendaisons à Billy en ce temps-là, reprit-il. J'allais les voir avec mon pa et ma maman. Maman emportait toujours un panier de pique-nique.
Il opina d'un air pensif.
Et si fait, il y avait souvent des pendaisons. Ça attirait du monde. Il y avait des marchands et des attractions foraines, comme des jongleurs par exemple. Parfois, il y avait même des combats de chiens, mais le clou du spectacle, c'était les pendaisons, bien sûr. Gloussement. Un jour, je me rappelle, il y a un type qui a dansé le komala quand la trappe n'a pas voulu s'ouvrir et...
Quel rapport avec le tatouage bleu ?
Oh ! Fit Strotter en sursautant. Et tous ceux qui sont allés au pénitencier de Billy en ont un comme ça. Je sais plus si ça faisait partie du châtiment ou si c'était pour les repérer au cas où ils se seraient évadés pendant leurs travaux forcés. Mais le pénitencier a fermé il y a 10 ans. C'est pour ça que les écumeurs ont pu ravager la ville, vous savez, parce que la milice était partie et que le pénitencier était fermé. Maintenant, c'est à nous de nous débrouiller avec cette racaille. »
Il me toisa avec impudence.
« On peut pas dire que Gilead nous aide beaucoup ces temps-ci. Non. Peut-être que John Farson serait mieux disposé à notre égard et certains seraient même prêts à palabrer avec lui. »
Sans doute lut-il quelque chose dans mon regard, car il se redressa sur son siège et ajouta
« Pas moi, bien sûr. Jamais. Je crois en la loi et en la lignée d'Elde. »
« Comme nous tous, »
renchérit Pickens en acquiesçant. « À votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens forçats parmi les salés ? » demandai-je.
« Ah, doit bien y en avoir quelques-uns. »
répondit Strotter après un temps de réflexion.
« Pas plus de 4/10, je dirais. »
Par la suite, je devais apprendre à contrôler mes réactions. Mais rappelez-vous que j'étais très jeune, et ma consternation devait être évidente. Cela le fit sourire. Il ne se douta sûrement pas de ce à quoi il échappa. J'avais vécu 2 journées fort pénibles et je me faisais beaucoup de soucis pour le garçon.
« Qui donc irait extraire du sel dans un trou pour un salaire de misère ?»
lâcha Strother.
« Des citoyens modèles ?»
Apparemment, le jeune Bill allait voir défiler pas mal de salés. Restait à espérer que celui qui nous intéressait ignorait qu'il n'avait vu de lui que son tatouage. Lorsque je regagnai la cellule, le jeune Bill était étendu sur sa couche et je le crus endormi, mais il se redressa en entendant claquer mes bottes. Il avait les yeux rougis, les joues mouillées. Il ne dormait pas, il pleurait. J'entrai, m'assis à ses côtés et lui passai un bras autour des épaules. Cela n'était pas naturel pour moi. Si je sais en théorie ce que sont le réconfort et la compassion, je n'ai jamais été doué pour les mettre en pratique. Mais je savais ce que ça signifiait de perdre un de ses parents. Le jeune Bill et le jeune Roland avaient au moins cela en commun. « Tu as fini tes bonbons ?» demandai-je.
« J'en veux plus, »
dit-il en soupirant. Le vent soufflait assez fort pour faire trembler le bâtiment, mais il se calma un peu.
« Je déteste ce bruit, »
dit-il. Et je souris en me rappelant la réaction de Jamie de Curie.
« Et je déteste être enfermé ici, comme si j'avais fait quelque chose de mal. »«
Tu n'as rien fait de mal. »«
D'accord, mais j'ai l'impression d'être ici depuis toujours. J'étouffe. Et si les autres ne rentrent pas avant la nuit, je vais y rester plus longtemps, pas vrai ?»«
Je te tiendrai compagnie. Si les adjoints peuvent nous prêter des cartes, on jouera au valet fantôme. »
« C'est pour les bébés, »
dit-il d'un air morose. « Alors au surveille-moi, ou au poker si tu veux. Tu sais y jouer ?» Il fit non de la tête puis s'essuya les joues. Les larmes coulaient à nouveau. « Je vais t'apprendre, on misera des allumettes. »«
Je préférerais que vous me racontiez l'histoire dont vous m'avez parlé dans la cabane. Je me rappelle plus son titre. »«
La clé des vents. Mais c'est une longue histoire, Bill. »
« On a le temps, non ?»
Je ne pouvais pas prétendre le contraire. Et c'est une histoire qui fait un peu peur. Ce n'était pas important quand ma mère me l'a racontée. J'étais bien au chaud dans mon lit et elle était tout près de moi. Mais vu ce qui t'est arrivé...
« C'est pas grave. Les histoires, ça vous emmène ailleurs. Les bonnes histoires, plutôt. C'est une bonne histoire ?»«
Oui. Du moins, je l'ai toujours pensé. »
Alors. « Racontez-la. »
Il eut un pauvre sourire.
« Et je vous donnerai 2 des 3 torsades que j'ai pas mangées. »«
Ces bonbons sont pour toi, mais peut-être que je vais me rouler une cigarette. » Ce que je fis tout en réfléchissant à la meilleure façon de me lancer. « Connais-tu des histoires qui commencent ainsi ?» Il était une fois, bien avant que ne naisse le grand-père de ton grand-père.
Elle commence tout ainsi, enfin, celle que me racontait mon pa, avant qu'il dise que j'étais trop vieux pour les histoires.
On n'est jamais trop vieux pour les histoires, Bill. L'homme et le garçon, la femme et la fille, on n'est jamais trop vieux. Nous vivons pour les histoires.
Vous dites vrai ?
Oui. J'attrapai mon tabac et mon papier. J'étais fort lent car, en ce temps-là, je venais tout juste d'apprendre à rouler les cigarettes. Lorsque j'eus obtenu un spécimen convenable, avec l'embout en pointe, je craquai une allumette sur le mur. Bill s'assit en tailleur sur sa couche. Il attrapa une torsade, la roula entre ses doigts en imitant mes gestes, puis la cala dans sa joue. Je commençai lentement, avec quelque maladresse, car l'art du conteur ne me venait pas naturellement en ce temps-là. Ce n'est que plus tard que j'appris à le maîtriser. Bien obligé, tous les pistoleros y sont tenus. Et à mesure que j'avançais, je m'exprimais avec plus d'aisance. Parce que j'entendais la voix de ma mère dans ma tête. Elle parlait par mes lèvres. Rythme, cadence, pause. Je vis le garçon entrer dans l'histoire et cela me combla. C'était comme si j'envoûtais une nouvelle fois, mais de façon plus noble, plus honnête. Et le plus beau, c'est que j'entendais la voix de ma mère. C'était comme si elle était de nouveau avec moi, tout au fond de moi. Ça faisait mal, bien sûr, mais c'est le plus souvent vrai des bonnes choses, ainsi que je l'ai appris. On a peine à le croire, mais, comme disaient jadis les vieillards, le monde est penché et il a une fin. Il était une fois, bien avant que ne naisse le grand-père de ton grand-père, à la lisière d'une terre sauvage et inexplorée qu'on appelait la forêt sans fin, un petit garçon nommé Tim, qui vivait avec sa mère, Nell, et son père, le grand Ross. Pendant un temps, ils vécurent heureux, bien qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent.